Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Ni chaud ni froid. Nous avons le plaisir d'être là avec vous pour partager l'émission, toujours accompagnée de Sophie La Falise à mes côtés.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Sophie. Et avec Pierre La Falise.
Bonsoir.
Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le talentueux Jean-Claude Servet.
Bonjour. Enfin, ou bonsoir.
On ne sait plus trop bien.
Sophie, vous voulez...
Moi, c'est un grand honneur de recevoir Jean-Claude Servet, que j'ai rencontré au Festival du Conte de Chigny cette année, que j'ai trouvé extraordinairement humain, qui ne m'a pas du tout remballé, qui a accepté de faire une interview avec moi, et puis quel bonheur de le voir ce soir avec nous.
Pierre La Falise.
Eh bien, je partage l'avis de Sophie. Je suis extrêmement honoré aussi d'être en présence de Jean-Claude Servet, qui est un des plus grands dessinateurs de notre époque, à mon sens en tout cas.
Jean-Claude Servet, vous avez fait vos débuts dans le journal de Spirou, dans la rubrique Carte Blanche, c'est bien ça?
Oui, j'avais 18 ans.
Dites-nous ce passage dans le journal de Spirou.
Ben, c'était deux pages qui étaient ouvertes dans le journal pour faire découvrir des jeunes talents, des auteurs qui pouvaient émerger. Et dans cette rubrique Carte Blanche, il y a des gens comme Franck P, Bernard Isler, qui sont des grands dessinateurs belges. Ils ont commencé leur carrière à ce moment-là. On a le même âge, on est né en 56. Donc voilà, je fais partie de cette génération avec François Skuyten, qui a le même âge aussi, mais il n'est pas passé par Spirou, il est passé directement par à suivre. Par la suite, quoi.
Et alors, ça veut dire qu'à 18 ans, vous étiez déjà convaincu de vos talents, de votre don, comment j'appelle ça, un don, quelque part. Et puis, vous saviez déjà que vous alliez faire une carrière dans ce métier ou pas du tout?
J'ai jamais imaginé autre chose. Donc, j'étais, à cette époque-là, je commençais mes études à Saint-Luc à Liège. C'était les arts plastiques. Mais il n'y avait pas encore de cours de bande dessinée. Il faut bien se remettre... Dans l'esprit de l'époque, la bande dessinée, c'était un peu mal vu dans les milieux artistiques ou les milieux littéraires. Hein, c'était un peu du sous-art. Mais je publiais déjà dans Spirou. Et puis après, j'ai passé une autre étape, qui est l'étape supérieure, qui s'appelle les découvertes du puits. Et là, c'est carrément des petits cahiers à l'intérieur de cahiers de 16 pages, de 16 planches, qui étaient à l'intérieur du journal. Donc j'ai suivi ces étapes-là, puis après, ça a été des histoires authentiques, des histoires de l'oncle Paul, et j'ai commencé ma carrière comme ça. Les cartes blanches, c'était mon scénario, je faisais un dessin, c'était humoristique, c'était pas du tout mon style d'aujourd'hui, c'était un dessin semi-réaliste, et à la manière d'Alexis, c'était un dessinateur français, il dessinait... superbement bien, c'était vraiment à cette époque-là celui qui m'inspirait le plus. Et puis après, je me suis tourné mes inspirations vers des dessinateurs comme J.G., comme Giraud, Herman, dessinateurs réalistes. Et à ce moment-là, je ne suis plus resté dans Spirou parce que j'étais pas gronné, comme on dit. Hein, c'était le gronné, Spirou, hein, c'était l'humour, c'était Boulébile, c'était Gaston. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais c'était vraiment typé comme ça. Et le journal Tintin, c'était soi-disant plus sérieux, et c'était le dessin réaliste.
Et peut-être plus poétique, parce que vous êtes tourné vraiment, en tout cas, de mon point de vue, vers quelque chose de plus poétique.
C'est après ça.
Après.
C'est
d'accord.
Après, parce que là, cette époque-là dont je parle, c'est plutôt, c'est des scénaristes, on me donnait des scénarios.
D'accord.
Voilà.
Et donc on vous imposait quelque chose.
On m'imposait quelque chose. Et moi, j'étais content de publier, de voir ce que ça donnait dans le journal. J'avais pas 20 ans. Hein.
Et moi, je trouve ça fascinant. Déjà, à 18 ans, que vous sachiez exactement ce que vous vouliez faire de votre vie, parce que je trouve ça hyper rare. Et puis, au niveau familial, ça donnait quoi au niveau de vos parents? Est-ce qu'ils acceptaient? Parce que vous parliez de sous-art quand même. Donc, c'est un petit peu comme quand on voulait être acteur dans ces années-là, j'imagine. Est-ce que votre famille a accepté facilement le fait que vous vouliez faire ça de votre vie, finalement?
Oh, ben, mon père, il me disait, ben, écoute, fais quand même des études, sois prof, et puis tu feras ça à côté, quoi. Ça, il a fallu un certain temps. Et même quand je suis venu... Donc, je suis né à Liège. Ça situe un peu cette époque. Ma famille est gaumaise. Mon père de Tintigny, ma mère de Jamoigne. mais mon père a eu du travail à Liège. Donc la famille s'est établie là, et j'ai fait mes études à Saint-Luc, à Liège. Et on revenait en vacances chez ma grand-mère maternelle, à Jamoigne, la maison que j'occupe encore aujourd'hui. Et pour moi, la Gaume, c'était un peu la liberté par rapport à la rigueur de la maison où mon père, ingénieur technicien, carré, c'était pas tout à fait moi. Et il se fait que, à l'âge de 20 ans, ou un petit peu même avant, mon grand-père est décédé, ma grand-mère se retrouvait toute seule, et je suis allé vivre avec elle, un peu pour l'aider, mais aussi pour pouvoir travailler librement et me chercher, et elle croyait vraiment en ce que je faisais, elle.
Donc c'est elle qui vous a poussé, en fait.
Pas poussé, elle m'a compris. Parce qu'elle n'a pas de talent artistique ou quoi que ce soit, mais elle a compris.
Donc finalement, votre passion, votre don, peu importe comment on le dit, ça provient de vous. C'est pas quelque chose de familial qu'on vous a appris, c'est pas votre grand-père qui dessinait bien, qui vous a passé.
Il y avait une cousine à ma grand-mère. Alors, je ne sais plus son nom, elle a eu un prix de Rome hein, quand même, c'était pas n'importe qui faisait de la peinture. Et elle habitait dans la région de Namur, je crois, quelque chose comme ça. Et elle revenait de temps en temps en Gaume, hein, je ne sais plus exactement où, si elle venait chez ma grand-mère ou à côté. Et c'était une femme un peu volage comme ça. Alors elle faisait de la peinture et quand elle avait gagné quelques sous, elle invitait tous les matous du coin et elle allait boire des coups au bistrot. Alors voilà, c'était un peu l'image qu'avait ma famille du milieu artistique. Mmh.
C'est souvent ça, hein, le milieu artistique, on est souvent très libéré comme ça.
C'est un peu une Violette avant l'heure finalement.
Jean-Claude Servet, est-ce que vous pourriez faire des dessins satiriques?
Pas du cartoon de presse, hein, ça non, je ne vais pas faire du crawl ou du gueuluc, c'est pas du tout mon style. Hein. Ben, c'est comme au cinéma, hein, vous avez au cinéma des films qui sont faits avec des personnages et des acteurs, et vous avez des dessins animés, il y a autant de différences. Hein, et je crois qu'on est fait pour faire de l'humoristique ou faire du réalisme. Il y en a très très peu qui arrivent à faire les deux, notamment Uderzo qui faisait Tanguy la Verdure en dessin réaliste, et qui faisait Oumpapa et puis Astérix en humoristique. Et là, il pouvait passer d'un genre à l'autre. Mm-hmm. Mais moi, je peux pas. Je peux quand même faire des choses un peu plus humoristiques avec des petits lutins, des petits trolls. Ça, j'arrive à faire. Et quand je dois faire une situation d'un dessin un peu improvisé, c'est plus facile de le faire un peu en humoristique comme ça, avec des personnages qui n'existent pas, qui n'ont pas des proportions bien précises. On peut jeter son crayon. C'est pas pour ça que l'humoristique ne soit pas
bien,
quelque chose
oui,
de rigoureux
oui.
non plus. Hein.
Mais attention. C'est pas votre patte.
C'est pas mon coup de patte.
Voilà, c'est ça.
Ben, chez nous, il y a Stédo, moi, hein, dans le coin, mais on s'entend très bien, mais on ne peut pas nous comparer.
Tout à fait. Tout à fait, c'est incomparable.
Et pourtant, on va dédicacer ensemble à Bouillon.
Bientôt ?
Je crois que c'est fin du mois.
Donc fin octobre, alors rendez-vous
fin
à Bouillon.
Fin octobre, hein. Ben oui. Bon, on achète notre papier à la papeterie des Ardennes.
D'accord.
En dessous du château, là.
Oui, oui.
Ben voilà.
Ah ben c'est une bonne date à retenir pour ceux que ça intéresse. Fin du mois à Bouillon, soyez présents.
Voilà, ben c'est sur Internet. Hein,
Vous trouverez facilement. Ou sur mon site. Eh bien, pour vous, j'irai voir sur le site de Monsieur Jean-Claude Servet et je mettrai les dates sur le Facebook de Radio Sud pour ceux que ça intéresse.
Vous avez réalisé l'album Hyacinthe, où est la question du coffre à magie et à sorcellerie, Sophie. C'est pourquoi la créateur est la Sophie Lafalise.
Et pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis donc médium, hein, Sophie Lafalise, ou ma spiritualité sur Facebook. C'est pour ça qu'Angelo pose cette question.
Ah d'accord.
Mais nous ne nous connaissions pas à cette époque-là, donc ce n'est pas un clin d'œil envers moi, pour répondre à la question d'Angelo.
Pierre Lafalise.
Oui, j'aurais une question aussi pour vous. Ah. Dans l'album Hyacinthe et dans l'album Isabelle, vous parlez du village d'Achour, qui est mon village natal.
Ah, d'accord.
Celui de Sophie aussi. Et vous dites, à un moment donné, que le village est très dangereux. C'est vraiment une région, en tout cas, très dangereuse. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi? Et on s'est dit, il y a peut-être un lien, vous en avez peut-être entendu parler, avec Géna et Magonette.
Ah ben oui, c'est...
Est-ce que c'est bien ça?
C'est le pays des grands bandits d'Ardennes, ça oui.
Voilà,
ça oui, ça. J'ai travaillé un peu ces sujets-là. Mais là, vous me parlez d'un album que j'ai fait il y a 45 ans. Ouïouï, je sais très bien que j'ai dessiné le château de Tavigny. Donc voilà. Mais c'est parce que j'avais trouvé ce château-là très sympa. Et c'est vrai que j'avais commencé aussi les contes de la Tchalette dans le journal Tintin à cette époque-là.
Oui.
Et je me souviens que l'ancien rédacteur en chef de Tintin me disait, quand j'avais déjà fait 2-3 contes, bah, tu ne vas pas dessiner des contes de ton pays toute ta vie, tout ça. Et j'essayais un peu de changer. Ben, finalement, qu'est-ce que je fais encore aujourd'hui? Dans le dernier album, j'ai dessiné Chasse-Pierre, quoi. Et ça fonctionne toujours, et il y a toujours moyen, en gardant le même patrimoine, de trouver des idées nouvelles. C'est sans fin.
Et puis il y a tellement de légendes, finalement.
Oui et non, parce qu'elles reviennent souvent, les légendes. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Parce que je travaille actuellement sur le chat, mais chat de sorcière, hein, pas un chat à sa mémère. Hein, c'est pas du tout mon truc. Hein, je suis de sorcier, de sorcière. Et c'est toujours le chat noir, c'est toujours le même sujet qui revient, les mêmes légendes avec des petites variantes locales. J'ai acheté un bouquin sur les légendes du chat. Eh bien, il y a la moitié du bouquin, c'est la même légende du sorcier, de la sorcière qui se métamorphose en chat, hein, et qui va dans les maisons, et puis qui ramasse un coup, comme dans la Tchalette, hein, c'est le premier que j'ai fait, et qui se fait balafrer, et quand elle redevient humaine ou humain, la balafre est sur le visage du sorcier, on les reconnaît. Eh bien, ça, c'est un thème qui revient à l'infini. C'est incroyable. Je croyais découvrir plein de choses dans ce bouquin. Ben, je l'avais déjà fait. Hein, la Tchalette, je l'ai fait une fois. Et il faut le faire autrement, quoi.
Et c'est pour ça qu'ici, moi, pour ceux qui le savent ou pas, peu importe, j'ai 34 ans. Et donc, on est plusieurs générations ici autour de la table. Et je recommande vivement les personnes, même les jeunes, les plus jeunes, d'aller lire un peu les BD de Jean-Claude Servet, parce que si on est un peu intéressé par sa région, l'endroit où on vit, les légendes qui l'entourent, on est vraiment servi de par mille façons, et donc on a l'habitude, en tout cas moi c'est mon papa qui est ici, qui était passionné des BD de Jean-Claude Servet, qui me les a fait découvrir, mais alors j'ai lu aussi qu'Angelo a vu ces BD-là dans les bibliothèques de ses grands-parents. On a tous un petit peu Jean-Claude Servet à la maison, tous ceux qui vivent ici.
Ah oui.
Mais je vous encourage vraiment à y retourner, à vous y replonger, parce que c'est féerique et puis ça donne envie de s'évader, et c'est important par les temps qui courent, je pense.
Pierre-Raphaël ? Oui, je voulais vous demander aussi, je ne sais plus dans quel BD vous auriez dessiné votre lit.
Oui, c'est dans la Tchalette.
Ah ben voilà, c'est ok.
Ah, je ne vais pas chercher mes décors très loin. Hein.
Eh bien justement, est-ce que vous avez dessiné d'autres objets ou d'autres lieux familiers mais qui vous sont vraiment proches ?
Bah dans le dernier, là, le corbeau, corneille, colombe, là, j'ai dessiné ma pièce d'entrée.
Ah, voilà.
Ben voilà, avec l'âtre de la cheminée, avec l'escalier. Mais j'ai situé ça dans une autre maison.
Oui, bien sûr. Oui.
Dans la maison d'un vrai musicien. qui se trouve à Chasse-Pierre, Olivier Lequi. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Il me fallait un vieux piano, il me fallait plus mon décor intérieur, dont je bidouille petit peu. Comme au cinéma, on fait pareil aussi, c'est le même principe, on prend des extérieurs et puis on met des intérieurs qui sont différents tant que ça corresponde plus ou moins, parce qu'on n'a pas toujours le décor exact. Et puis bon, le dessin, c'est de la création aussi, et c'est toujours essayer d'avoir ce qui correspond le plus à l'histoire.
C'est une partie donc plus personnelle de vous lorsque vous dessinez des objets ou des lieux très familiers.
Ben, si j'ai ça à portée de main, pourquoi est-ce que je dirais? Et dans celui que je dessine pour l'instant, que j'ai écrit cet été, et que j'ai commencé à dessiner au mois de septembre, je dessine une villa abandonnée, délabrée, et elle est à 150 mètres de chez moi.
Ça, c'est chouette.
Voilà.
Et puis ça doit être merveilleux pour vos enfants, petits-enfants qui viennent vous rendre visite, de voir des lieux qui leur sont familiers aussi dans vos livres à vous, dans les livres de leur papa, de leur grand-père. Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui suit un peu votre route ou pas du tout?
Mes enfants, ils ne suivaient pas au début, ça les énervait quand ils étaient petits. quand le téléphone sonnait pour moi, il y allait. Il y a même mon fils aîné qui avait un peu la même voix que moi. Et quand il y a un collectionneur qui téléphonait pour essayer d'avoir ceci ou cela, et il laissait tourner le truc. Et puis à la fin, il disait, ah mais moi, je suis le fils, je suis pas... Parce que là, et puis finalement, à l'école, en humanité surtout, ils ont pris conscience. Il y a même un élève qui est devenu journaliste, qui était dans la même classe que mon fils, qui lui a offert mon dernier album, que je lui ai dédicacé, parce qu'il ne le connaissait pas. Et l'autre gaillard, là, il ne comprenait pas. Ils ont fait un petit... Alors maintenant, c'est tout à fait le contraire. Et j'ai 8 petits-enfants... Et ils s'y intéressent, j'ai des petites filles qui dessinent, mais c'est encore jeune, hein, donc je les laisse faire comme ça. Et on parle de moi à l'école, elles me voient. Là, c'est différent. Une génération plus loin, l'intérêt est différent.
Et justement, à cet âge-là. À ce propos-là. Monsieur Jean-Claude Servet, comment est-ce qu'on gère cette notoriété-là? Parce que moi, j'étais présente au Festival du Conte, donc là où je vous ai rencontré, et j'ai vu que dès que vous arrivez quelque part, on va tout de suite vous solliciter, vous demander des choses. Comment on gère un petit peu ce côté-là de...
Ça énerve ma femme. Hein.
Ah ben j'imagine.
Ça énerve, elle veut pas, elle veut plus venir avec moi.
Le bras de la BD.
Bon, pas à ce point-là, non, faut pas exagérer. Non, les gens sont quand même assez respectueux, c'est jamais trop accaparant, mais c'est vrai que ça peut être un peu lourd des fois, mais ça dépend dans quel salon on est. Parce qu'il y a en Belgique des collectionneurs purs et durs qui veulent toujours un dessin dédicacé, qui veulent... Et puis il faut faire des dessins à la chaîne, ça je fais plus. Quand je fais une dédicace ici, en province de Luxembourg, je ne fais plus de dessin. Je me fais une signature et je discute avec les gens.
Voilà.
Eh bien c'est bien plus agréable, ça se passe bien, ça énerve certains collectionneurs parce qu'ils ne peuvent pas avoir un dessin, parce que des fois il y en a, ils ne pètent pas un mot, vous faites le dessin, ils reprennent le bouquin, ils le ferment, ils partent. Hein. Alors faire un dessin pour des gens comme ça...
Oui.
Quel regard portez-vous sur votre notoriété? C'est un peu la même question, mais est-ce que vous avez conscience aussi de votre notoriété avec le recul?
Ben, je me rends compte que j'ai marqué des personnes à une certaine époque de leur vie, surtout avec Tendre Violette ou d'autres albums, et je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là.
Ah oui, je crois que c'est exactement ça.
Voilà.
Et les nouvelles générations?
Les nouvelles générations, quand j'ai une jolie fille d'une vingtaine d'années qui se présente à moi pour faire une dédicace, je me dis, ah, chouette! Ça y est, je renouvelle un peu mon public. Puis quand je fais la dédicace, ah, c'est pour mon papa, ah, c'est pour ma maman. Et alors, le coup de grâce, je l'ai eu il y a 2 ans. C'est pour qui? C'était un gars qui avait quoi, 25 ans. Ah, c'est pour mon grand-père.
Oui, mais c'est aussi la preuve que vous avez marqué dans les époques. Et puis moi, je vous connais, encore une fois, au travers de mon papa, mais je suis aussi... autant intéressé que lui maintenant.
Ah oui, oui, il y en a qui m'ont découvert comme ça.
Voilà, exactement. Et puis ça continue. Et c'est ça aussi, c'est un peu intemporel, je trouve.
Ah oui, oui, oui. Parce qu'on réédite, hein.
Oui.
Tout le temps, la Tchalette, on la réédite tout le temps. Elle est épuisée pour le moment, mais on va la réimprimer, quoi. Donc, alors que ça date de 82, quoi.
Oui.
Je ne sais pas combien d'éditions il y a, hein. C'est assez magique.
Les histoires fantastiques vont toujours intéresser, quelles que soient les générations. Je pense qu'il y a toujours un attrait pour le fantastique.
Oui, mais c'est intemporel. Hein.
Voilà.
C'est intemporel. Si vous faites une bande dessinée à la mode ou quoi, puis après, ben...
C'est
et ne pas trop... Ne pas trop situer au niveau des véhicules et tout ça. C'est là qu'on a des références.
Sur les années.
Les voitures, bah oui, oui. Sur les années, hein, ça.
Et les décors, les décorations, les intérieurs de maison aussi donnent un indice aussi sur,
sur
l'époque.
Mais moi, je fais des choses à l'ancienne,
oui.
Hein, donc.
Vous aimez ça. Hein.
Bah, je fais du contemporain aussi dans la nouvelle collection ici. La faune symbolique, il y a un mélange des deux. Il y a un fil rouge qui est plus contemporain, qui relie différents contes. Qui vont jusqu'à la mythologie, qui vont vraiment chercher très très loin, et ça fait un tout, ça fait un tout.
Et alors aujourd'hui, on est là pour le corbeau, la corneille et la colombe. Et j'ai une question, moi, par rapport à ça. Vos forêts, vos corbeaux, vos personnages ont souvent un côté entre deux mondes. C'est une façon pour vous de rappeler que la magie est encore là, même dans notre quotidien ?
Oh ben oui, vous allez en forêt ou quoi, la magie est toujours... Il y en a qui ont peur d'aller en forêt.
C'est ça, exactement.
Donc c'est parce qu'il y a du fantastique, il y a un son, il y a quelque chose. La nature est toujours proche.
Et ça nous donne envie, hein. Justement, moi j'ai mis, quand on referme cet album, on a presque envie d'aller se promener en silence dans la forêt. Qu'aimeriez-vous que le lecteur ressente après la lecture de votre album ? Est-ce que vous y pensez à ça, au ressenti de la personne ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ressente ?
Ben, qu'il aille dans la nature et qu'il aille voir les villages, les endroits que je dessine.
Ça vaut le coup.
Ah, ça vaut le coup. Il y a la maison du tourisme de Gaume qui vient de sortir un petit dépliant avec un circuit en Gaume avec tous les lieux que j'ai représentés. Avec chaque fois une image.
De vos dessins alors ?
De mes dessins, oui, oui. Donc tel album, ben, il y a ça. Et on peut trouver ça à Virton, on peut trouver ça à Chassepierre, à Jamoigne.
Donc dans la maison du tourisme.
Oui, mais ça vient de sortir.
Ah ben, allez-y,
allez
voir.
Ça vient de sortir, et c'est pour toute la Gaule. Et puis au niveau de la nature, ben, je fais découvrir des coins que les gens ne connaissaient pas. Parce que les gens du coin ne connaissent pas certains lieux, ils en ont entendu parler, mais ils ont découvert à travers mes bandes dessinées. C'est ça qui est assez étonnant, alors qu'il suffit d'y aller, quoi. On va en vacances, bien loin, pour aller faire des visites de ceci et de cela, alors que tout près de chez soi, on n'y va pas et c'est à portée de main.
Vous avez une vitrine aussi au parc Chlorophylle, dans la région de Dochamp,
oui.
Où l'accès au parc est jalonné de très grands dessins que vous avez réalisés aussi. Et donc, on a tout de suite un visuel sur ce que vous faites.
Ah ben oui, oui. Le musée de Piquenrue aussi, le musée de la Grande Ardenne, j'ai une grande rétrospective. Et je leur ai laissé, je crois que c'est 120 originaux en dépôt. C'était l'exposition. Et ils peuvent les prêter à d'autres musées. Ah oui. Et actuellement, il y a des planches avec des loups qui viennent du musée de Piquenrue, qui viennent de cette première expo, qui sont dans... J'ai une expo qui vient d'ouvrir au musée Gaumet sur le thème du loup. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est tout récent. Hein, on a fait le vernissage la semaine dernière.
Alors pas du tout, mais
loup qui es-tu ? Loup qui es-tu ? Il suffit d'aller voir sur le site du musée. Et en fait, c'est une expo qui a été montée par... c'est une nouvelle équipe, hein, là, avec une nouvelle directrice, là, une jeune qui en veut. Et en fait, l'idée de départ... C'était une étudiante qui faisait un travail pour essayer de trouver les origines du loup en Belgique. Et elle est allée prélever des ADN des différents loups empaillés dans les différents musées. Chaque musée a son dernier loup. Ici, en Gaule, c'est un de Gerlache qui a tiré le dernier loup. Donc voilà, il y a un loup comme ça. Et finalement... elle s'est rendue compte, après toutes les analyses, que le loup, ces loups-là, n'ont rien à voir avec les loups qui débarquent maintenant, qui viennent de Pologne, qui viennent des pays nordiques. Ce n'est pas le même. Donc, le loup belge, ou peut-être français aussi à l'époque, il n'existe plus. La race, cette race-là, a été éradiquée parce qu'on les a tous tués. Donc, c'est d'autres loups qui viennent chez nous. Et ça a donné cette idée de faire une exposition... qui vient de démarrer maintenant, qui durera jusqu'au mois de mai. Et je pense que c'est intéressant d'aller voir, parce que ça intéresse même les écoles, parce qu'il y a des petits concours, c'est adapté aussi aux enfants. C'est vraiment très, très intéressant et loup, très, très bien monté.
Loup qui es-tu ?
Loup qui es-tu, je pense que
alors,
c'est ça.
On est tellement bien avec Monsieur Jean-Claude Servet qu'on oublie qu'il y a des auditeurs, mais pour les auditeurs qui sont avec nous, je mettrai aussi les informations sur le Facebook de Radio Sud pour que vous puissiez aussi voir un petit peu tout ça. Ça a l'air en tout cas passionnant. Et on voit votre relation avec la nature. Vous êtes un passionné finalement des animaux et de la nature.
Non, bah oui.
Je pense que c'est hyper nécessaire pour le moment. On est dans un monde de plus en plus stressé, de plus en plus dans la technologie de tout. Est-ce que vous trouvez un réconfort dans la nature ? Est-ce que quand vous traversez des moments difficiles, vous-même vous allez vous balader
dans
la forêt ?
Bah oui, bah oui. Ah oui, ah oui.
Trouver une paix différente.
Ah oui, ben pour écrire, je vais dans les bois, j'ai un chalet dans la nature, avec des cigognes noires, des martins pêcheurs, j'ai tout du gibier qui passe. Ben j'ai fait l'album Le Chalet Bleu, et tous les animaux qui sont, et oiseaux qui sont représentés dans l'album, je les ai vus. Là, à l'endroit que j'ai dessiné.
Donc la nature vous inspire. C'est pas uniquement vous aimez la nature, vous la dessinez, non. Vous allez sur place.
J'ai besoin de nature.
Vous êtes inspiré.
Pour créer, oui. Bon, je fais des fois des scènes de ville, je peux le faire. Hein. J'ai dessiné la Grande Place de Bruxelles, j'ai dessiné... Ça, je peux le faire, mais la nature revient toujours. C'est là que je suis le plus à l'aise. Et cette nouvelle collection, avec la faune symbolique, c'est beaucoup plus nature que... encore que le reste, hein, donc...
Puis c'est ça qu'on aime chez vous.
Ah oui, mais disons que c'est le problème. Hein. On a toujours peur de se répéter. Mais si vous faites quelque chose de trop différent, on ne vous reconnaît plus. C'est comme un chanteur, il est connu par tel et tel morceau. Hein, je pense à Maxime Le Forestier, je reviens toujours sur le même, parce que j'avais la même tête quand j'étais jeune. Il avait été connu pour... Hein, et puis il a voulu changer et faire autre chose, et puis ça, on l'a oublié, ça n'a plus marché, et puis il est revenu avec des trucs plutôt un peu créoles, machin, totalement différents. Et il faut habituer un peu le public.
En fait, on met des gens dans des cases, à la base.
Ah ben oui, forcément. Moi, on me connaît pour ceci, pour cela. Mais quand on réfléchit bien, c'est la nature, c'est la région. Mais je la travaille au niveau contes, légendes, au niveau animaux, au niveau historique. J'ai fait Orval, j'ai fait Godefroy de Bouillon. Donc, c'est déjà trois sujets différents. Et puis, au niveau polar aussi, j'ai fait La Petite Reine. C'est vraiment du polar, ça, qui se passe à Virton. Des bandits d'Ardennes, donc ça fait déjà cinq thèmes là, dans le même décor.
Et vous êtes passionné à chaque fois, chaque album que vous faites vous passionne, ou est-ce qu'il y en a un plus qu'un autre qui vous a marqué?
Oh ben, les albums qui m'ont le plus marqué, c'est ceux qui m'ont fait connaître et qui ont le mieux marché, mais.
C'était par exemple
Tendre Violette et La Tchalette, hein, ça c'est des incontournables. Et puis après, il y a eu Lova, puis après, il y a eu Orval. Ça, c'était vraiment un défi, parce que c'était historique, mais je l'ai fait à ma manière.
Puis le dessin d'une précision aussi, parce que j'imagine que quand on dessine en quelque chose, une abbaye, il faut qu'elle soit fidèle à ce qu'on voit quand on la regarde.
Ah oui, mais ça, les documents, je les avais sur place. Hein. Puis je suis allé prendre des photos à l'intérieur. De l'abbaye, donc.
Est-ce que c'était un stress, une angoisse, ou est-ce que vous avez ressenti une appréhension du fait de reproduire justement un tel bâtiment? Alors là, on parle de l'abbaye d'Orval, mais on peut parler de la cathédrale de Reims, on peut parler d'autres bâtiments qui sont importants. Est-ce que vous avez une espèce d'appréhension de vous dire, est-ce que je vais réussir à la...
Ah oui, ça c'était des défis.
Oui.
Ah oui, complètement. Ah oui, ça m'a permis d'aller plus loin. Hein. Ah oui. Bon, pour ce qui est Compostelle avec Notre-Dame de Paris et autres, j'ai été déçu parce que le public ne m'a pas suivi. Avec Orval, ben là, ça a été... Mais d'un autre côté, j'ai raconté l'histoire d'Orval à ma manière, mais en la vulgarisant, pas sous un regard d'historien. Parce que les historiens, c'est quand même des théories, des thèmes et tout, c'est pas vraiment une narration. Et il y a pas mal de gens qui ont découvert l'histoire de l'abbaye d'Orval grâce à ma bande dessinée.
Oui, et puis d'un côté, peut-être un peu moins ennuyeux.
Ah bah oui.
Historique, en tout cas pour ma part.
Ah bah ça, le bouquin du père Grégoire, il faut se le farcir. Hein. Même les historiens, quand je leur ai dit, j'ai passé une semaine à tout lire, à souligner. Ah, tu l'as lu en une semaine, qu'ils m'ont dit.
Le courage.
Oh bah oui, mais je voulais... je ne vais jamais interroger les gens. Parce que si les gens m'expliquent l'histoire, ils donneront leur version à eux, et il faut parler absolument de ça, absolument de ça, absolument de ça. Ça, c'est leur vérité. Les historiens, c'est comme ça, hein, parce qu'il y a des textes, hein, il y en a qui interprètent ceci ou cela, et je travaille d'après des livres, et je vais chercher ce qui m'intéresse, tout en respectant l'esprit, sans tout raconter non plus, sinon ça part dans tous les sens, Et c'est un gros travail, hein. C'est presque comme un travail d'étudiant qui doit faire une présentation ou une élocution. Quand on était à l'école primaire, on se documentait un peu dans les livres et puis on faisait l'élocution. Ben là, je prends des notes, hein. J'ai plein de documents avant de créer ma propre histoire qui suit la documentation que j'ai digérée avant. Parce que j'ai écrit et je dessine. C'est ça qui est motivant aussi. C'est pas que du dessin sur un scénario qui a été fait par un autre.
Jean-Claude Sarvet, je vous demande de choisir une chanson qui symbolise tous vos histoires et votre univers. Vous avez choisi ?
Ben, on avait parlé de Maxime Le Forestier, c'est ça ?
Voyage en solitaire.
Un voyage en solitaire de Gérard Manset. Ah oui, ça c'est extraordinaire ce morceau.
Et pourquoi ?
Ah ben il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que là c'est magique. C'est magique.
On va l'écouter.
C'est magique.
Il voyage en solitaire. Nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tout de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garder. Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul, un jour, l'amour l'a quitté sans éclair. Faire tout l'autre côté du fil où il n'y avait pas de place pour se garder. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante. Thank you.
Jean-Claude Servais, est-ce que vous avez des dessins en étant jeune que vous avez gardés en secret?
Des dessins que j'ai gardés en secret, j'en ai retrouvé justement à la demande d'un éditeur qui s'appelle BD Must, qui ressort les péchés de jeunesse des grands dessinateurs. Il vient de faire Dany, et puis moi, Eichmann, et moi je viens d'y passer, ça vient de sortir, les inédits de Jean-Claude Servais, et alors ce sont un peu toutes les cartes blanches sont dedans, les oncles Paul, les histoires vraies, il y avait, et puis les découvertes du puits, c'était un personnage qui s'appelait Ronnie Jackson, c'était un peu de la science-fiction dans le monde, du western, dans le passage, passager du temps, enfin bref, un scénario qu'on me fournissait que je dessinais, c'était sorti à l'époque dans les années 80, un petit bouquin souple, et alors il y avait aussi des histoires vraies, authentiques, pareil, mais depuis, plus rien. Et il a eu la bonne idée de regrouper tout ça, et d'aller fouiller un peu dans mon armoire, et il y avait des dessins que j'avais un peu abandonnés, et la couverture, c'est même un dessin que j'avais abandonné pour faire la couverture de La Belle Coquetière. J'avais pas pris celui-là, j'avais pris un autre, j'avais abandonné, il n'était même pas fini, et puis on a un peu réussi à le bidouiller, et ça fait une super couverture, mais j'ai dit, ah ben oui, c'est pas si mal, à l'époque, j'aurais presque jeté, mais je l'avais gardé, je garde toujours tout, moi je ne jette rien, je ne suis pas rangé, je le garde. Et finalement, ça a bien servi, parce qu'avec tout ça, on a fait un bouquin de 144 pages, je n'en reviens pas. Je dis, j'ai fait ça, ah, j'ai fait ça, ah bon, il y a encore ça. Parce que je vis plus avec le présent et le futur qu'avec le passé.
Chose que peu de personnes arrivent à faire, tiens ça.
Ah, j'ai toujours envie de faire quelque chose, d'avancer, quoi. Je renie pas mon passé, c'est pas ça, hein, mais je vais pas ronronner sur mon passé.
Vous projetez vers le futur.
Ah oui.
Vos histoires se situent dans les années 40 et 60. Pourquoi ces périodes?
Il n'y a pas que 40-60, il y a fin du 20e siècle, les années 1900, la guerre, j'ai même fait la guerre de 1870, j'ai fait la guerre de 14, la guerre de 40, les années 60 et autres, non, il n'y en a pas tellement de cette époque. J'ai fait un peu toutes les époques. Hein.
J'avais fait une bande dessinée pour l'amour de Guenièvre aussi.
Oui, c'est basé sur les Chevaliers de la Table Ronde. Oui, c'était une commande, ça, une commande. Ça, c'est une autre époque.
Ça vous éloignait un peu.
C'était encore l'époque. Et ça, on va rééditer aussi chez ce petit éditeur-là. Mais ce n'est pas dans le gros recueil de 144 pages qu'on aurait pu faire un bouquin de 300 pages.
Et comment s'appelle ce bouquin, justement?
Ben lequel, ce qui va sortir là?
Oui.
Eh ben c'est les inédits de Jean-Claude Servais.
Les inédits de Jean-Claude Servais.
Aux éditions BD Must. Alors ça ne se trouve pas dans toutes les librairies. Vous les trouvez, il y a quand même un dépôt au club de la BD à Florentville, ou sur Internet. C'est un éditeur qui vit beaucoup sur Internet. Et alors, quand il lance un bouquin, il fait un genre de souscription, comment est-ce qu'on appelle ça, donc un crowdfunding, comme ça les gens misent pour avoir l'album avec un petit plus, et quand il atteint le chiffre voulu pour éditer l'album, il le fait. Et normalement, il lui faut 2 mois pour atteindre ce chiffre. Je ne vais pas trop le dire, mais moi, en 15 jours, j'ai été réglé. Et il a eu 3-4 fois plus qu'il ne fallait.
Sans trop d'étonnement.
Mais ça prouve la fidélité du public.
Oui.
Quoi.
Oui,
mais je pense qu'on le disait justement en off, vous plaisez autant par votre travail que par votre personnalité.
C'est lié.
Oui, tout à fait.
Humainement.
Humainement, oui.
Ben oui, mais c'est moi. Mes bandes dessinées, c'est moi.
Et happé par la foule, dès qu'il va quelque part, en tout cas, il est très connu, hein, il a l'air très, ouais, il est très humble.
Je suis un WC.
un VIP.
Non, WC.
WC.
Wallon connu.
Voilà, Wallon connu. Et pour autant, il reste très accessible. Enfin, il a une personnalité, moi, je trouve extraordinaire, je tiens à le dire. Et on le disait tout à l'heure, que ce soit une petite radio locale comme ici, ou la RTBF, ou voilà, peu importe, il est là, et puis nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Encore merci pour ça.
Ben, merci de votre accueil.
Je crois que c'est avec quel personnage de vos albums vous a le plus marqué?
Les premiers, c'est Tendre Violette et La Tchalette. C'est un peu la même personne. Dans Tendre Violette, il y a la Lucie qui est un peu la Tchalette. Donc c'est la jeune femme sauvage et la vieille sorcière. Voilà, c'est des filles des bois, c'est des femmes des bois, c'est des femmes de la nature, c'est des femmes de caractère.
Et est-ce que vos premiers albums vous ont pris plus de temps pour les achever? Ou alors, est-ce que c'est aléatoire? Est-ce qu'il y a des albums dans le temps qui vous ont mis plus de temps? Ou est-ce que c'est vraiment les premiers où vous avez pris plus de temps à élaborer? Et puis après, c'est une espèce, alors je ne vais pas dire d'usine, c'est pas ça que je vais dire, mais d'habitude, plutôt d'habitude.
Toujours mis à peu près le même temps pour réaliser une planche. Voilà. Bon, maintenant, ça devient, je ne rajeunis pas, ça devient un peu lourd de tenir encore ce rythme-là, mais je l'ai encore tenu jusqu'ici. C'est pour ça qu'on a encore un album tous les ans. Mais les albums que j'ai faits, j'ai pris le temps qu'il fallait. Mais je me capsule derrière aussi. J'ai mon fantôme qui me fouette derrière. Et je ne travaille bien que quand je suis dans un rythme. Je ne peux pas un peu commencer un dessin là, l'abandonner. Ah non. Il faut que ce soit fait. Et puis je m'organise. Bon, ici, on va accueillir mes petits-fils. Pendant les vacances, ils viennent des Vosges, là on va les avoir pendant une semaine complète. Eh bien, je terminerai lundi, mardi, toutes les esquisses de planches d'un chapitre. Et à ce moment-là, la semaine où ils seront là, ben, je dessinerai un peu de temps en temps, faire un peu de lettrage. Ça, c'est dans des périodes comme ça. Donc, je me donne un rythme de travail en fonction des circonstances familiales. Et voilà, mais j'avoue que je suis un peu égoïste, mais je vis dans ma bulle, je vis dans mon truc, et que j'ai besoin de créer, j'ai besoin de cela, d'être à ma planche à dessin, tout seul dans mon grenier, ou tout seul dans mon chalet pour écrire. Oui, pour écrire, pendant 2 mois, je m'isole complètement, je ne veux rien entendre, je suis dans ma création.
Et que ressentez-vous quand vous êtes comme ça?
Là, c'est magique. Quand tu t'imagines qu'avec un tue de papier, on m'a dit, j'arrive à raconter des histoires avec des personnages, et les gens en parlent comme s'ils vivaient vraiment, quoi. Et moi, je le vis.
Une journée type de Jean-Claude Servais quand il est dans sa création, ça commence par quoi?
Mes créations de quoi? Si c'est le scénario, c'est moins contrôlé. Mais en dessin, ben, je me lève à 7h du matin tous les jours et à 8h15, 8h20, je suis à la planche à dessin. Quoi. Et je travaillais jusque 5-6 heures ou même un peu plus. Maintenant, 3h30, 4h, après ça dévisse.
Vous n'avez jamais eu des périodes de vide comme ça
ou... Ça arrivait un peu à certains moments parce qu'il fallait que je prenne des décisions par rapport aux éditeurs ou aux scénaristes aussi.
Vous personnellement, ne plus avoir envie pendant une période de dessiner?
Je me suis cherché un peu. Bon, j'ai fait Tendre Violette avec Gérard Dewam, qui était un prof de français que j'ai rencontré à mon service militaire. On était complices, on discutait du scénario. Mais bon, le problème, c'est que cet homme-là avait des gros soucis d'alcool. Et la complicité ne pouvait pas continuer. Donc, et ça, c'était un moment un peu creux, j'essayais de faire un peu d'autres choses, et j'ai fait notamment un album sur base des textes de Julos Vaucan qui s'appelle Madame la Baronne. Oui. C'est un album où je me cherchais à ce moment-là. Et c'est l'album que j'ai le moins bien vendu, il était particulier, je ne le regrette pas, mais il m'a bien servi. Et c'est vraiment en dehors de tout. Et puis après, je me suis remis sur les rails. Et j'ai continué.
Et jamais d'angoisse de la page blanche.
Toujours. Quand il y a une page blanche, il y a toujours une angoisse. Bah oui, même si j'ai écrit le scénario avant. Et comme je suis mon propre scénariste, je peux toujours m'engueuler et puis changer mon texte. Et souvent, je change mon texte en fonction des documents que je trouve. Donc ici, dans cette nouvelle collection, j'ai des thèmes sur la mythologie et autres, et puis je fais le scénario sur base de texte, et puis quand il faut trouver les documents pour pouvoir dessiner ça, comment dessiner ces trucs-là, parce qu'il y a des choses un peu invraisemblables pour faire passer, hein, parce que entre ce qui est écrit et le dessiné, c'est autre chose. Eh bien, je rechange, et puis je... Mais oui, là, cette semaine, j'ai eu quelques angoisses, mais j'avais une bonne documentation, et j'ai trouvé le document qui me permettait de faire passer cette idée-là en un seul dessin, plutôt que de découper tout et de faire quelque chose qui tient la route, quoi.
Et justement, dans Le Corbeau, la Corneille et la Colombe, vous ouvrez l'album avec une légende antique, celle d'Apollon et du Corbeau blanc. Donc, on va pas spoiler le bouquin, mais pourquoi ce choix de mêler mythologie et campagne ardennaise? Parce que c'est ce que vous faites.
Ah oui, même dans les légendes, je mets des légendes qui viennent du Japon. Oui, c'est universel. Hein. De toute façon, la mythologie, on en dépend aussi. Tous les pays européens, même l'Amérique. Les cultures, les contes, les légendes. J'ai lu des légendes africaines, mais ça revient un peu à nos légendes d'Ardennes dans les villages, avec des personnages différents. Et j'adapte ça. Ça passe par ma sensibilité, et puis ça ressort avec le décor habituel de ma région, enfin habituel.
Ça revient vraiment dans le connu. Donc ça passe de la mythologie un peu rêverie. Enfin, moi, j'ai adoré la légende du corbeau. Hein. Je ne la connaissais pas, je l'ai adorée. Et pour vous, que symbolisent ces oiseaux noirs, justement? Est-ce que c'est des oiseaux de malheur ou au contraire des messagers du vivant? C'est un petit peu ce que j'ai ressenti dans le bouquin.
Ça dépend des cultures. Hein.
Pour vous.
Hein, pour moi, le noir fait toujours peur. Hein. Un chat noir, il y a un chat noir qui passe devant toi, malédiction, la sorcière est derrière.
Heureusement, je ne fais pas peur.
Voilà. les corbeaux, les corneilles, c'est pareil aussi. Hein. Ça vient, c'est dans les gènes, hein. Mais c'est la religion. Hein. C'est l'agneau blanc. Hein.
On a influencé très
fort. Tiens, c'est la religion qui a voulu ça, hein, qui voulait diriger et contrer un peu les anciennes croyances et qui cassait tout. Et c'était le noir et le blanc. Le blanc, c'est le bon, et le noir, c'est le mauvais. Ça, c'est difficile. Faire une jeune fille délicate, gentille et tout ça, on va plutôt lui faire des cheveux blonds. Une méchante, on va lui faire des cheveux très durs, très noirs, coupés à la hache. Et puis voilà, quoi. C'est quelque chose qui est dans l'esprit des gens, et moi je le vois bien quand je dessine, c'est un peu ça aussi.
Déesse blanche, déesse noire.
Complètement. Complètement.
Diriez-vous que la peur dans vos récits est une porte d'entrée vers la poésie?
Ah ben oui, il faut avoir peur. De toute façon, les gens aiment avoir peur. Quand on voit les Walt Disney, il y avait des frayeurs pour les enfants. Et puis, ils accrochaient les sorcières.
Et les belles princesses blondes, justement.
On revient à ça.
Exactement.
C'est pas moi qui ai inventé.
Dans votre livre, on suit les aventures d'Éléonore, d'Alice et Léon.
Oui.
C'est bien ça. Et Éléonore a un particulier avec son corbeau corollif, pour dévoiler le sujet.
Oui, c'est pas un corbeau, c'est une corneille.
Corneille.
Parce que les corbeaux... vivent plutôt dans la forêt, surtout le grand corbeau, c'est la grande forêt, et les corneilles, elles sont près de nous. Donc, elle a une corneille apprivoisée, et elle commence l'histoire en faisant une élocution pour présenter.
Et on peut apprivoiser les corneilles, même le
mot. Oui.
On apprivoise.
Oui, tout à fait, parce que ce sont des animaux très intelligents. Qui peuvent faire plein de choses. Dans la mythologie, c'est plutôt des corbeaux, avec le dieu Odin, par exemple, qui surveillait. Ça, c'est des corbeaux noirs, c'est après Apollon. Mais c'est un peu le même principe qu'Apollon, qui faisait surveiller toute sa maîtresse par le corbeau blanc, qui a été transformé en corbeau noir, parce qu'il n'a pas tout dit à Apollon au moment voulu.
Alors, c'est une histoire extrêmement intéressante, je le souligne, parce que moi, j'ai adoré, dès le début du livre, je répète, le corbeau, la corneille et la colombe, que vraiment, je vous encourage à vous procurer. On est happé dans une histoire un peu comme ça, rocambolesque, mais qui est géniale, quoi. Et puis alors, on retourne dans nos Ardennes, etc. Enfin, chasse-pierre, ici. Et c'est absolument génial.
Mais tout est lié, hein. Ouais. C'est pour donner la personnalité de l'animal. C'est un personnage. Ah oui, les contes sont choisis justement pour... et ont un lien avec la narration que je fais, que j'appelle le fil rouge, qui vient... relier tous ces contes.
Que vous faites très bien.
Dans l'histoire, on est happé, n'est-ce pas, Sophie?
Totalement.
Je cette histoire, on la boit en fait.
Ah ben oui, ah oui, oui. Moi, mais on l'interprète aussi, hein, parce que moi je donne, je raconte pas tout non plus, hein. Entre les cases, il se passe des choses, et les gens imaginent un peu ce qu'ils veulent. Des fois, j'ai des surprises. Hein. Il y en a qui me disent « Ah oui, t'as bien fait de faire ça, parce que ça m'a fait penser à ça et ça, et de dire ça. Hein, » J'avoue que je n'y ai pas vraiment pensé. Je l'ai fait d'instinct, je dis « Bien sûr que j'y ai pensé, bien sûr. »
L'histoire se déroule en 1935, c'est bien ça?
Ben, c'est au moment de la guerre, un peu avant, et puis la guerre arrive... Et voilà, donc il se passe des choses avec la jeune Éléonore et un déserteur allemand. C'est la fin de la guerre. Je vais pas tout
dévoiler.
Ben non, non, non. Et puis je suis déjà tellement dans l'autre. J'ai feuilleté l'album avant de venir. Hein, j'ai relu un peu les noms des personnages parce que je suis plus tout à fait dedans.
Ça va être nécessaire aussi de se dire, voilà, quand j'ai fini un album, je passe à l'autre. Puis pas j'oublie, j'efface l'album d'avant, mais pour pouvoir se remettre dans la nouvelle histoire, il faut arriver à toujours mettre un espace entre chaque. Ça doit être difficile hein, de ne pas mélanger, oui. Puisque vous créez tout le temps.
Ben oui, oui, mais seulement le travail est différent entre l'écriture et le dessin. Donc, quand j'ai fini le dessin d'un album, je passe à l'écriture. Et là, ce n'est pas le même métier, et ce n'est pas le même atelier, et je ne porte pas la même casquette. Le même chapeau. Je ne mets pas de casquette et des chapeaux.
Et vous commencez d'abord par dessiner alors l'histoire?
Non.
Avant de la raconter?
Non, je raconte avant.
D'accord.
Donc cet été, j'ai écrit pendant 2 mois dans mon chalet,
oui.
Avec mes étangs et mon Martin Pêcheur qui vient toujours me faire coucou, j'ai écrit l'histoire sur le chat. Ça s'appellera La femme chat.
D'accord.
Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais
vous le dessinez,
j'en avais marre de dessiner, j'en pouvais plus à la fin, parce que écrire, ça, allez, ça dure un mois et demi, l'écriture, hein, en tout cas, et dessiner, c'est 9-10 mois, quoi.
Oui.
Et le travail est plus laborieux. Le travail d'écriture est plus intense. En écriture, j'arrive à écrire 4 heures par jour, pas beaucoup plus. Après, dessiner, je peux faire 8-9 heures.
Il faut dessiner avec beaucoup de détails. Hein.
C'est ce ben oui.
Peut-être. Et une question, vous avez aussi mis assez régulièrement des petits brins d'érotisme comme ça dans pas mal
ben oui.
de vos BD. Est-ce qu'on vous l'a déjà reproché, ça?
Ah, les commères de Florentville. Quand on a mis la statue tendre violette à côté de l'église, ces grenouilles de bénitier ont quand même rouspété. Ah, mais bon, c'était le personnage de Violette, on le voit dans l'album. Hein, donc, bon, non. Et j'ai beaucoup de lectrices. Donc, ce côté érotique ne les dérange pas. Elles s'y reconnaissent, finalement. Parce que j'en fais des personnages qui sont plus souvent dominants par rapport aux hommes.
Oui.
Donc, mais c'est une question de sensualité. Moi, je trouve que le corps d'une jeune femme, c'est quelque chose... Enfin, même plus ancien. Enfin, plus j'aime mieux quand un peu plus jeune. C'est la beauté du corps d'une fée. Une fée, elle est habillée d'un voile de brume. Hein.
Mm-hmm. Oui.
Donc, voilà, c'est...
Donc,
c'est
les retours sont plutôt agréables, quoi. Sont plutôt
positifs. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a quelques jeunes adultes qui viennent des fois me faire dédicacer un album, qu'ils ont été shippés au-dessus de l'étagère de leurs parents quand ils étaient adolescents, quoi. Qu'ils ont eu leurs premiers émois avec Tendre Violette.
Et alors, est-ce qu'une personne, par exemple moi, je serais passionnée de dessin, etc., est-ce que vous avez des élèves? Est-ce que ça vous est arrivé d'apprendre à quelqu'un qui est passionné aussi à travailler ou
de ben je reçois de temps en temps des élèves mais, qui me montrent leurs travaux. Ben, Palix, il est venu me montrer ses travaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a aussi, en fait, Vincent Patard, Pic-André, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est dans le dessin animé, ben c'est aussi le curé qui était le cousin de mon père qui est venu le présenter avec son père quand il était encore en culotte courte, le gamin. Hein. ben voilà, c'est quand même amusant, parce que ce sont des personnalités de, maintenant dans l'art du dessin ou des dessins animés ou de la peinture de la province.
Et est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas du tout de talent, enfin qui aurait du talent mais caché, qui voudrait vraiment apprendre, est-ce qu'il pourrait vous écrire en vous disant, ben voilà, j'aimerais beaucoup apprendre à travailler comme vous, est-ce que vous pourriez apprendre à quelqu'un?
Non, pas apprendre à travailler comme moi, il ne faut pas faire des petits cervets, hein. Ça ne sert à rien, ça.
D'accord, mais comme ça, les gens le savent, c'est important.
Parce que ça ne sert à rien, il faut avoir sa personnalité. Mais ce n'est pas facile, parce que j'ai donné des stages à un moment, et notamment avec Vincent Patard, mais il était tout jeune, et alors j'expliquais un peu comment je travaillais et autres. Ben, il faisait un peu du petit cervet, quoi. Et c'est assez marrant, et puis j'en ai vite sorti pour faire quelque chose de totalement différent, parce qu'il avait une personnalité et qu'il a pu... émerger, quoi.
Oui, donc vous avez quand même, vous l'avez aidé à se lancer, mais par rapport à comment vous travaillez, à une espèce d'apprentissage, mais pas pour faire...
Lui donner l'envie de continuer, et puis par rapport à ses parents ou quoi, oui, sûrement. Oui, il en parle encore maintenant, mais pourtant, bon, ça n'a rien à voir, il y a autant de différence entre lui et moi que Stédo et moi, quoi. Hein, donc
si vous voulez apprendre à faire du petit cervet, il ne faut pas écrire... à Jean-Claude, ben, il faut plutôt lui demander des conseils.
Ça, ben voilà, voilà. Venir un soir à la maison, moi je peux leur conseiller. Bon, j'ai assez bien d'étudiants, j'ai encore une étudiante en journalisme qui va faire un reportage sur moi en tant que créateur, ça j'en ai chaque année, quoi.
Je rebondis à ça, est-ce que vous avez un lien particulier avec vos lecteurs?
Avec mes lecteurs, ben il y a un site internet, hein, qui... Et puis il y a sur Facebook aussi, mais je ne suis pas, hein, c'est d'autres qui s'en occupent, qui répondent. Quand on me pose des questions, ben, je réponds, et puis ils leur mettent sur le site, je donne les dates quand on a...
On n'écrit pas votre adresse pour...
Oui, il y a un moment, mais maintenant c'est surtout par Internet. Hein.
Vous avez une équipe qui est dédiée comme ça à tout ce qui est...
Ben, il y a des passionnés. Quand on me demande, voilà, qu'est-ce que... pour l'album Les Inédits Servais, l'éditeur, il me posait des questions, tout ça. Oh, mais ne me pose pas ces questions-là, m'en souviens plus. Va demander à Christian Lefebvre, qui s'occupe de mon site internet, il connaît mieux que moi. Hein. Et c'est assez amusant, on fait des fois des dédicaces, il est là aussi, et lui, il dit, ah ben, quand il discute avec le collectionneur, moi je suis incapable de répondre, et lui, il dit, ah ben ça c'était... Bon, c'est un peu excessif aussi. Moi, c'est pas le genre de choses qui est prioritaire pour moi. Mais ça entretient un certain public. Et il y en a qui essayent d'avoir l'album en édition originale et tel machin. Donc voilà, c'est des passionnés, quoi. C'est des passionnés.
Et vous comprenez ça, les passionnés, justement. Est-ce que vous réalisez que vous êtes une figure? Alors, on parlait de notoriété tout à l'heure, mais est-ce que vous comprenez ces passionnés-là qui veulent absolument avoir l'album original, oui, etc. Ou est-ce que ça vous dépasse totalement?
Ça me dépasse. Oui. Même ceux qui viennent en dédicace, qui attendent 2-3 heures pour me rencontrer 5 minutes et avoir une signature.
Moi,
et
ça
avoir
fait parler. Plaisir.
Ah oui. Et eux, ça leur fait plaisir aussi.
Mais c'est ce qu'on aime chez vous, hein.
Et vous-même, avez-vous comme ça des gens que vous admirez dans d'autres domaines, hein?
Oui, mais je les admire, mais je ne les interpelle pas.
Voilà.
Non. J'hésite même. Oui. Mais je n'ai pas grand-chose à leur dire, si ce n'est que... Ou alors il faudrait se trouver dans une ambiance, mais pas en quelques minutes, quoi.
Est-ce qu'il y a des situations qui vous irritent dans la vie? Ou qui vous révoltent?
Il y a beaucoup de choses quand on voit le monde d'aujourd'hui. Pardon, hein, c'est pour ça aussi que je suis dans ma bulle. Hein.
Oui.
Oh. Et que le lien à la nature est sans doute aussi important.
Ah, bah oui. Tu sais, il y a des choses qui m'énervent aussi quand on voit ce qu'on détruit, comment on gâche. Ben, j'ai combattu des éoliennes qu'on voulait mettre à Muneau. Là, je suis monté au créneau. Je n'ai pas l'habitude de ça, hein, mais. Et les gens qui présentaient leur projet, là, ah mon Dieu, normalement c'était quelqu'un de la commune qui devait tenir le micro, hein, de neutre. Mais c'est eux qui le tenaient. Et alors ils m'avaient repéré, évidemment. mais moi j'avais des choses à dire, et j'en ai dit dans la presse à l'époque, et ils ne me donnaient jamais le micro. Mais alors on s'était arrangé avec d'autres membres de notre groupe, on s'était dispersé dans la salle. Et à un moment, j'avais quelque chose à dire, il ne voulait pas du tout me donner le micro. Et ben, c'est quelqu'un du groupe qui est venu me prendre. Je suis monté sur scène, j'ai dit non, ce que vous dites n'est pas vrai. Pas tant que vous ne me... je reste assis là. Non, enfin, monsieur, non, je reste là.
Un homme de conviction.
Ah oui, mais non, pour là, pour aller. Là, c'était mon univers, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est une. Des derniers. Avec Somtone, c'est vraiment le même truc. C'est des grands espaces. Sans ligne à haute tension, sans chemin de fer, sans autoroute, des lieux magiques qui représentent vraiment la Gaume avec les Cuestas, avec la forêt ardennaise du côté de Muno, avec la France du côté de Somtone, sur les Cuestas. Et c'est des endroits où il n'y a rien, que des petits villages, ils n'ont pas, c'est pas Orval, c'est pas Florentville, mais sauvage. Et nature, il ne faut pas toucher à ça.
Ça va être balafré.
Oh ben, aller faire des... il faut faire... Donc, il y a des petits chemins et tout ça. Pour passer les machines, il faut faire des routes macadamisées de 5 mètres de large.
Oui, oui.
Donc, voilà. Et en plus, ça tue la nature, les milans et tout ça, les chauves-souris. Il y a des chauves-souris exceptionnelles partout. Et en fait, on se sentait agressé parce que ces gens-là... Ils essayent de prendre avant de réfléchir et d'étudier le terrain. Et nous, on doit se défendre. Donc, ils avaient fait signer des conventions avec des propriétaires pour avoir les terrains avant de présenter leur projet. Et présenter leur projet, quand ils avaient mis des affiches, c'était mis le long des pâtures, cachées derrière des orties. Hein. C'était vraiment pour... et on a pu se défendre avec toutes des choses que l'on pouvait trouver sur Internet, sur le site du syndicat d'initiative. Ah oui, on a ça. Ah oui, on a ça, parce qu'on a eu d'autres comités de défense d'autres régions qui sont venus un peu nous conseiller comment nous défendre, parce que ils font la présentation dans 15 jours pour réagir. Hein. Et il y a une personne de Thouin qui est venue parce qu'ils avaient un projet là aussi, et ils sont venus un peu expliquer. Et puis, ben, ça, vous pouvez vous défendre avec ça. Ben, on a. Et avec ça, ben, on a. Ben, vous avez tout. Et en fait, la société n'a même pas fait sa demande de permis. Parce qu'ils ont mis leurs poteaux, leurs machins, ils s'en sont rendus compte. Mais alors, ça fout un sacré bordel dans le village, hein, parce qu'il y en a qui ont vendu, qui espèrent toucher le gros lot au détriment des autres. Ah, ça fait un sacré bordel.
Et donc, en conclusion, si vous voulez vraiment mettre en colère Jean-Claude Servet, vous venez à Bouillon fin du mois, vous demandez un dessin d'une belle éolienne.
Non, je suis pas contre les éoliennes. C'est, les éoliennes, oui, peut-être, mais c'est pas ça qui nous sauvera. Ça, c'est là. Parce qu'on parle d'éoliennes et tout ça, puis maintenant, on refait des croisières avec des... Et puis les avions et tout ça, à des prix incroyables. C'est hallucinant, on part en vacances, hein, on va aller à Madagascar, on va aller là, oh là 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 là.
On en a parlé.
Il faut consommer moins, il faut...
Dans une précédente émission de Radio Sud, Ni chaud ni froid, avec Olivier Simon, avec qui vous entendriez formidablement bien, qui est très très nature, etc. aussi, et on disait, c'est vrai qu'on met énormément de budget dans les IA, à l'heure actuelle, les intelligences artificielles, et très peu dans les forêts, et peut-être qu'il y aurait un équilibre à avoir, mais ça c'est évidemment à notre échelle.
Mais maintenant, tout est une question de pognon. Hein. Quand on a vu les mouvements de jeunes pour sauver la planète et autres, c'était il y a quelques années. Maintenant, on n'en parle plus. C'est fini. Ce n'est qu'une question de profit. Ah, complètement. Avec l'autre gros con aux États-Unis. Là.
Et vous avez votre façon à vous, finalement, de militer contre ça, parce que d'abord, vous avez un nom, vous avez cette chance-là que vous pouvez utiliser.
Ah oui, ça,
je suis. Et puis, dans vos albums, vous militez quand même contre ça, parce que vous donnez, je le disais tout à l'heure, une envie de se balader dans la forêt, envie d'aller plus loin, de découvrir un petit peu la
magie, respecter, tout ça. De respecter.
Et donc, vous faites votre part.
Ben oui.
Je vous demande sur une chanson qui se rapproche sur le passé, c'est Le Forestier.
Maxime Le Forestier.
Quand on parle de forêt.
Ben oui, oui.
Mais dans le thème.
Ben Maxime, c'est bon. Quand j'étais plus jeune, j'avais un peu la même tête que lui, avec des cheveux bien noirs. Et puis il a chanté la maison bleue. Hein, et moi, j'ai fait un album qui s'appelle Le Chalet Bleu. Donc voilà.
Nous allons l'écouter.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5h du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accroché à ma mémoire, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi.
Jean-Claude Servet, pourquoi Chassepierre?
Pourquoi Chassepierre pour cet album-ci?
Oui.
Ah ben, c'est pas compliqué. Chassepierre est un très beau village que j'avais dessiné dans mon premier album, La Chalette. Et puis je me dis, je ne l'ai pas assez dessiné, je le redessinerai une fois. Et il se fait qu'il y a eu l'émission Mon plus beau village de la RTB sur Chassepierre. Et il filmait avec un drone. Donc, il y avait des images de drones que je pouvais utiliser. Et raconter une histoire de Courbeau et de Corneille, ça tombait pile poil, avec un village dans un creux de vallée, là au pied d'une cuestas. Ben c'est juste ce qu'il me fallait. Donc toutes les images dans l'album que vous voyez prises d'un drone, ce sont des photos que j'ai reprises de la télé, de l'émission, tout simplement. Et ça me permettait de donner un rythme à mon histoire, et avec justement ces corbeaux, ces corneilles qui volent autour.
Et pour décortiquer tout ça, ça vous a pris combien de temps?
De quoi?
Du drone, les photos et tout ça.
Bon, ça va vite, hein. J'ai fait le tour du village, ça ne m'a pas pris l'après-midi, parce que je connaissais. J'ai mitraillé en photo. Et puis les drones, ben, j'ai fait ça avec un pied d'appareil photo devant mon écran de télé. Et j'ai pris tout ce qui était possible. Et puis une fois que je fais développer toutes les photos... Et quand j'ai écrit mon scénario et que je commence à dessiner, ben je prends les photos et puis je les pose sur ma planche et je regarde un peu comment je compose. Et c'est aussi simple que ça, mais il faut un maximum de photos pour pouvoir trouver la photo qui convient. Et maintenant, ça ne coûte plus très cher de sortir des photos, donc je mitraille.
Sophie ?
Oui, moi je me pose la question parce que ça reste un peu énigmatique. On a une BD en main et puis voilà, on a l'habitude des BD, etc. Mais quand on travaille sur une planche, alors c'est une planche de combien sur combien, je me pose toutes ces questions-là. Est-ce que vous travaillez au crayon? Comment vous travaillez en réalité? C'est peut-être une bête question, hein, mais quand on ne s'y connaît pas, c'est intéressant à savoir.
Bah, il faut aller au musée Gaumet, il y a des originaux qui sont exposés avec nous.
Et il y a des reproductions aussi. Non, je dessine très grand. Hein. Moi, une planche, c'est pratiquement la table. Hein. Mais je coupe des bandes. Je fais d'abord mon scénario que j'ai écrit dans mon chalet sur des cahiers Atoma. Vous connaissez ça? On avait eu ça à l'école.
Atoma.
Qu'on ne voit pas les cahiers Atoma avec les anneaux, là. T'as
ça
pas eu ça à l'école?
Absolument rien.
Pourquoi ça n'existait déjà plus?
Je suis peut-être un petit bébé aussi, hein, par rapport à vous,
bon.
Je ne sais pas.
Ah non,
on m'a pas utilisé, mais...
Ben oui, mais c'est pratique.
Mais les auditeurs sauront.
Non, et alors, j'ai écrit chaque page sur une page de ce cahier-là. En fait, c'est une page avec des anneaux, et tu peux prendre une page et la changer de place.
D'accord.
Ou réécrire un chapitre que tu as écrit en 3 pages, en 5 pages. Et c'est comme ça que j'arrive à écrire mon récit. Alors, je divise la page en 2 colonnes. Colonne de gauche, description d'image. Colonne de droite, dialogue des personnages. Et puis, une horizontale, c'est une case. Tchac, tchac, tchac. Une planche. Et je fais tout mon récit comme ça. Et des fois, je peux recommencer quelque chose, ben j'enlève et je réécris. Ou je veux changer un chapitre de place, hop. Et c'est vraiment très pratique. Mais avant, il y a quand même le synopsis. C'est comme au cinéma. C'est comme une rédaction.
Comme un scénario.
Les grandes lignes. Le scénario, c'est à la fois le découpage. Oui, c'est le scénario. Oui, oui, c'est le synopsis. Après, c'est le découpage. Moi, je parle du découpage dans lequel il y a Thomas. Donc, j'ai mon découpage. Quand j'ai mon découpage, je vais prendre mes photos. Donc, j'ai toute la documentation qu'il faut. Ou alors, je vais faire des photocopies dans les livres et autres. Et j'ai toute la documentation. Puis, quand je commence à dessiner, eh bien, c'est sur base de cette feuille de papier à Thomas que je vais construire ma planche. Et je travaille très grand. Mais dans un premier temps, je fais un brouillon. Je travaille au crayon maintenant. Avant, j'ancrais. Maintenant, j'ancre plus. Mais ce n'est pas pour ça que je gagne du temps. C'est-à-dire que je fais un brouillon en format un peu plus petit, hein, de la planche avec les différentes cases. Là, il me faut. Et des fois, je rajoute une case ou j'en enlève une en fonction de la documentation que j'ai. Mais le sujet est sur la planche. Il faut que je respecte ce qui a été écrit pour tenir les dimensions de l'album. Et alors, à partir des documents, à partir des personnages, des esquisses que je peux faire et autres, ben, sur mon brouillon, je dessine et je silhouette le décor, sans les détailler. Une fois que j'ai fini ça, ben, je mets les dialogues aussi. Alors, je travaille par chapitre. Je les lis. Donc, et je reviendrai. Je silhouette les grandes lignes. Et puis, je finis le dessin, enfin, je finis grossièrement le dessin, je le détaille au crayon. Je peux me relire, parce que j'ai un chapitre, et je le fais lire aussi à des amis, les anciens, qui ont lancé le club de la bande dessinée, Michel et Hélène. Et une fois que je vois que ça fonctionne bien, eh bien, je vais travailler directement sur le papier original. Je vais redessiner les cases de mon brouillon en multipliant par 1,35, c'est comme ça, avec ma petite calculette parce que le format est plus grand. Et j'ai un projecteur et je projette chaque case que je silhouette sur mon original. Parce que je travaille tout au crayon. Quand j'ancrais, c'était au crayon, j'ancrais, puis je gommais les lignes de construction. Quand vous voyez le dessin fini, on ne fait pas un dessin comme ça. Directement, il y a des lignes de construction avant. Et les lignes de construction, elles sont sur le brouillon. Et comme je projette en silhouettant, en reprenant avec un porte-mine 03 tout fin, ligne claire, hein, comme Hergé, sans faire d'ombre, rien du tout, eh bien j'ai déjà tout mon dessin qui est construit. Et puis après, je peux y aller.
Et donc, voilà, vous, c'est votre habitude, vous en parlez, vous avez l'habitude de ça. Mais nous, quand on a une BD comme ça dans les mains, on ne se rend pas compte du travail que ça demande, de la précision que ça demande.
Mais c'est ma manière à moi de le faire. Il n'y a personne qui travaille comme ça.
Mais c'est quand même hyper passionnant et intéressant de voir tout le travail qu'il y a derrière. Donc, nous, on tourne les pages, tout ça, magnifique, voilà. Mais c'est waouh, c'est hyper passionnant de
l'entendre. Ah oui, mais déjà, quand on voit un original, on voit déjà les choses différemment.
Au musée de Gaume.
Au musée Gaumet, puis au musée de Picon-Rue à Bastogne aussi.
Je vous mettrai toutes les infos sur le Facebook.
Votre livre aux éditions Dupuis.
Oui.
C'est bien ça? Et on, où on peut se le procurer? Vous pouvez rappeler...
Dans toutes les bonnes librairies.
Et vous pouvez rappeler vos réseaux sociaux?
Ah, ben, il y a un site internet officiel. Il faut trouver les références parce que... Donc, c'est J.C. Servais. C'est...
Je les mettrai sur le Facebook de Radio Sud.
Et c'est lié aussi avec un Facebook. Mais j'avoue que je ne suis pas tout ça.
Voilà, donc n'écrivez pas ça. Trop de milliers de messages.
Ah ben, il y a des messages et tout ça. Laissé un message. En fait, hein, le site Facebook, j'étais pas au courant qu'il y en avait un. C'est des passionnés qui l'ont fait. On me l'a dit par après. Le site internet, l'initiative vient de Nicolas Jacquemin, qui est un architecte paysager de Marche, qui vient de Bruxelles, je crois, qui s'est installé là, qui était passionné de ce que je faisais, qui disait, comment tu n'as pas encore de site internet, il s'est lancé, et puis depuis, il y a Christian Lefebvre qui est venu, qui s'est proposé pour... faire la présentation parce qu'il s'y connaît quand même en informatique, il travaillait au Luxembourg dans ce domaine-là. Et voilà quoi. Hein. Donc, et moi je donne des informations à la librairie, le club de la BD, qui les transmet aux autres.
Je vous demande de choisir une chanson qui s'appuie cet album, vous avez choisi Pomme.
Ouais.
Et après, on passera les bons numéros de Sophie.
Ah ben,
on va écouter, on brûlera, c'est ça? Pomme.
Oui, pomme, c'est ce que j'écoute le matin pour me mettre dans l'ambiance. Progressif. Quand on a bu son petit café.
Moi, c'est ce que je mange.
Si vous voulez créer, pomme.
On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu. Nos adieux à la terre, mon ange, et je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras. Que la mer nous mange le corps, que celle des dieux, de ma mère et ses louanges. Je sais toutes les prières, tous les vœux pour que ça change. Mais je à la terre, mon ange, car je veux partir avec toi. Je veux
je t'aimerai encore.
nous allons passer aux bons numéros de Sophie. Sophie,
voilà. Donc, Jean-Claude Servet, vous êtes né le 22 septembre 1956 sous un chemin de vie 7. Alors, le 7, c'est le chiffre des chercheurs de sens, des contemplatifs, des âmes qui s'interrogent sur la vie, la nature et l'invisible. Ce sont des êtres pour qui la solitude n'est pas un vide, mais un espace de réflexion, un lieu où la créativité s'enracine. Je pense que ça vous correspond.
Ah, tout à fait.
Les personnes du chemin de vie 7 ressentent très tôt un besoin d'observer le monde différemment. Elles ne se contentent pas de ce qu'elles voient. Elles cherchent ce qui se cache derrière les apparences. Chez Jean-Claude Servet, cela se traduit par son art, une vision à la fois réaliste et mystique, où chaque arbre, chaque oiseau, chaque silence semble raconter une histoire ancienne. Le 7, c'est aussi le chiffre de la spiritualité, de la nature et de l'intuition. On le retrouve chez ceux qui veulent comprendre la beauté du monde sans jamais la dominer. Servet, lui, observe, traduit et relit. Il nous invite à regarder autrement ces êtres qu'on juge trop vite, les corbeaux, les légendes, les villages oubliés, les croyances populaires. Le chemin de vie 7 est celui des passeurs, de ceux qui construisent des ponts entre les mondes, entre la terre et le ciel, le visible et l'invisible, la raison et la poésie. Et c'est peut-être ce qui fait de Jean-Claude Servet un artiste si unique, un conteur du silence, un voyageur intérieur qui parvient à faire dialoguer la mémoire des anciens avec les questions d'aujourd'hui. Par son œuvre, il ne cherche pas à briller, mais à révéler. Et c'est sans doute là toute la sagesse du chiffre 7, éclairer sans bruit, transmettre sans imposer et éveiller sans jamais forcer.
Merci Sophie. Bravo.
Est-ce que vous vous reconnaissez?
Oui, tout à fait.
Bon, c'est parfait pour moi.
Tout à fait.
Ça fait ça bien.
Ouais.
Ce n'est pas moi, c'est la numérologie.
Numérologie.
Donc, chaque chiffre, a, chaque date de naissance a un chemin de vie. Et donc, c'est toujours très intéressant de regarder un petit peu parce que ça correspond toujours en réalité à la personne que l'on est.
En parlant de vie, si vous deviez recommencer votre vie, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez?
Non.
Non? Et y avez-vous encore des rêves?
Durer le plus longtemps possible et mourir sur la planche.
Nous vous souhaitons pas de mourir.
Ben si, mais faudra bien un moment. Faudra bien un moment. Non, tant que je peux garder cette faculté de créer, d'écrire, de dessiner. Bon, je vois bien que j'ai quand même des fuites de mémoire. Là. J'ai feuilleté l'album pour me souvenir des prénoms des personnages, hein, ici.
On n'en parlera pas.
On n'en parlera
mais
pas.
Vous en avez
mais non, je suis déjà dans un autre. Donc voilà. Mais bon, c'est revenu tout de suite, hein, mais...
Je rebondis sur la question de Pierre Lafalise, que maintenant, rencontrez-vous plus jeune, au début de votre carrière, quels conseils donnerez-vous?
Oh. Donner des conseils à un jeune.
À vous, pas. En plus
à moi, en plus jeune.
Si vous voyez.
Bah, de continuer. De... Mais bon, j'ai vraiment. Je suis sorti très vite. Très vite. J'ai commencé Tendre Violette, j'avais 23-24 ans. La Tchalette en même temps aussi. Et c'était le succès immédiat. La première année, j'ai vendu 100 000 albums. C'était énorme. Sur trois titres, hein, mais n'empêche, même à l'époque, c'était énorme.
Est-ce que vous, dans vos croyances, vous attribuez ça à quoi? À la providence? À votre talent? À quoi vous attribuez ce succès fulgurant comme ça, dès le début?
Ben, c'était fulgurant au début, hein, parce que je ne fais plus des chiffres comme ça, parce que c'est plus du tout la même chose, hein, c'est plus comparable. Mais je dure, quoi, c'est ça qui est intéressant, que j'ai toujours un public. On réédite mes albums constamment, on les réimprime. On va même chercher mes péchés de jeunesse. Voilà, c'est ce qui a un intérêt pour les gens de connaître ce que j'ai fait. J'aime pas dire mon œuvre parce que c'est pas
c'est
mon
cas,
travail.
Oui,
mon
c'est enfin,
bon, il y a une identification aussi, je pense, de vos lecteurs à vos histoires, etc.
Ah oui, je sais que les gens, il y en a qui ont besoin de mes albums, que ça les réconforte. Il y en a qui ont lu tel album à tel moment de leur vie, ben comme un chanteur qui a une chanson qui a touché une personne qui était dans le doute à un moment, et la chanson l'a révélée. Je ne sais pas, mais ici, ça se passe aussi, oui.
À propos de toucher, je reviens un petit peu en arrière. Vous avez fait une trilogie, Accordaille, Semaille et Grisaille.
qu'on va rééditer aussi. Toujours chez le même.
Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que c'est une histoire personnelle, ces deux personnages-là? Est-ce que c'est des gens que vous avez connus ou pas du tout?
Disons, c'est un peu le documentaire des albums de Tendre Violette et de la Tchalette, au niveau des traditions. Et il y avait l'ancien qui tenait directeur du musée Gaumet, Edmond Fousse, qui a sorti un petit livre sur les contes, les croyances en Gaume et les superstitions. Et c'était un peu comme un calendrier, ça se passait à tel moment, à telle étape de la vie. Et je me suis dit que tiens, je ferais bien, j'avais envie de faire un peu de l'illustration, de sortir un peu des petites cases de BD pour faire du dessin, un peu comme de la gravure en fait. Hein. Ouais. C'est des très grands dessins qui étaient très travaillés. J'avais lancé ça. C'est moi qui ai construit l'album, qui l'ai même dessiné, et Gérard de Wam, qui a écrit le texte, est venu par après. Mais la conception, c'est moi. Et là, ça a vraiment bien fonctionné. Les textes de Wam étaient très bons aussi à l'époque.
C'est très touchant.
Mais pour preuve que cette tradition, elle règle un peu la vie et la sensibilité des villages.
Oui.
Avez-vous un maître à penser dans la bande dessinée?
Oh ben j'en avais plusieurs. À penser, je me suis inspiré de gens comme J.G. On le voit très bien dans mes PG de jeunesse. Là, mon premier, les découvertes du puits, c'est vraiment du J.G. au pinceau. Puis il y a eu Giraud, Hermann, les grands réalistes, mais qui dessinent des chevaux, qui ont du crottin, des vrais, quoi, hein, vraiment donnent de la matière dans l'univers dans lequel ils les font voyager. Ça, c'était vraiment mes grands maîtres. Hein. Et puis aussi, pour la sensibilité, Paul Cuvelier qui dessinait Corentin. Mais ça, c'est encore plus vieux, ça. Hein. Ma chère petite Jeannette.
Je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais je ne connais pas.
Il n'y a que des anciens qui peuvent encore connaître, parce que c'est oublié. Ça date des premiers numéros du journal Tintin, ça. Et c'était vraiment un dessin très très beau, très sensuel. Et ça il m'inspire encore beaucoup.
Certainement qu'on pourrait retrouver ces dessins-là sur Internet maintenant, voir un petit peu il s'agit, refaire vivre peut-être un petit peu.
Ah oui, mais disons que c'était pour la construction, les mouvements des personnages, pas du tout pour le trait. Mmh. Hein, moi j'ai un trait totalement différent.
Vous êtes incapable, enfin c'est votre patte, on le disait à l'heure, donc ça ne ressemble à personne, quoi.
Dites-nous une chanson qui définit votre présent, votre futur.
Qu'est-ce que j'ai choisi?
Le chat beauté.
Thomas Fersen. Ah, Thomas Fersen, oui, c'est
très chouette. Et pourquoi?
Ah, mais j'adore ce chanteur. Il raconte des histoires de la vie avec des personnages tout simples.
Et puis la notion de chat est importante.
Et puis le chat aussi.
Nous allons l'écouter, la chanson.
Je travaille au chaboté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mulons et petits rats. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit, son prénom doit être Berthe, pointure 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. Fixé par une péniche, telle sera ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles. Je surveille au chaboté derrière mes lentilles. Au rayon des nouveautés, une longue fille. Elle regarde les savates et puis finalement elle me dit qu'elle convoite les mules en serpent. Elle me confie son pied nu comme une sœur. Il est fin, petit, menu, bref, sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, enfin je l'allume. Je voudrais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. aux chabotés, cette démangeaison, cette envie de bécoter en 15 ans de maison. Je repousse l'île saute, l'île saugrenue, l'île de proposer la botte à cet inconnu. Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à son rayon, la fille s'enfuit, me laissant désappointée, la mule à la main. Elle s'enfuit du chaboté, passe son chemin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Je me faufile dans la réserve, j'entrouvre la boîte. Tout le parfum que conserve la pantoufle droite me traverse les narines, dilate mon cœur, me réchauffe la poitrine comme une liqueur. Moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule et même la chair de dindon quand j'éteins l'ampoule. Il me semble être avec elle, elle à mes côtés. Je rêve d'une vie nouvelle, loin du chaboté. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles.
Voilà, Sophie.
Oui.
Ben oui. Vous parlez de ça.
Ben oui, justement, c'est le thème, le chaboté.
Oui, c'est ça.
J'en parle dans l'album, là. Hein.
Enfin,
j'en parlerai. J'en parle déjà dans mon scénario, c'est dans mon cahier à Thomas, mais c'est pas encore dessiné. Je ne sais plus à quel point ça intervient, mais.
Quand on parle de chat, voici la chronique La Parole de Sophie.
Alors, la petite chronique aujourd'hui, ce sera évidemment sur Halloween hein, qui arrive à grands pas. Alors ça s'appelle des citrouilles, des bonbons et un peu de magie. Donc dans quelques jours, les rues vont se peupler de petits fantômes, de sorcières miniatures et de vampires édentés qui frapperont aux portes avec leur un bonbon ou un sort. Halloween arrive avec son cortège de rires, de frissons et de sucre, beaucoup de sucre. Cette soirée, où la peur devient un jeu, où les enfants apprennent qu'on peut se déguiser en monstre sans en devenir un, et que parfois ce qui fait peur le soir peut devenir drôle à la lumière d'une lampe citrouille. J'aime cette idée. Halloween, c'est un peu comme un grand théâtre à ciel ouvert. Les enfants jouent à se faire peur, les adultes retrouvent leur âme d'enfant, et les maisons se transforment en décors de contes. Derrière les portes, il y a des gens qui sourient, qui offrent un bonbon ou un mot gentil. Et ce soir-là, même les inconnus ne font plus si peur. Et justement, cette frontière entre le réel et l'imaginaire, entre le visible et l'invisible, c'est aussi celle que traverse l'invité du jour sur Radio Sud, Jean-Claude Servet. Ses dessins sont peuplés de forêts, de légendes, de vents qui parlent et d'âmes anciennes qui veillent encore. Il nous emmène dans un monde où les pierres ont une mémoire, où les arbres observent les humains et où chaque brume cache peut-être une histoire. En fait, c'est un peu la même magie qu'à Halloween, celle qui relie les vivants à l'invisible, les enfants à leur peur et les rêveurs à leurs racines. Les fantômes de Servet, eux, ne réclament pas de bonbons. Ils réclament qu'on les écoute, qu'on se souvienne d'eux, qu'on garde vivante cette part de mystère qui sommeille en chacun de nous. Alors, pendant que les enfants feront le tour des maisons, les poches pleines de sucreries et peut-être qu'un esprit de la forêt, quelque part, sourira en coin. Parce qu'il aura reconnu cette même étincelle que dans les contes de Jean-Claude Servet, celle qui fait du monde un lieu un peu plus magique, même quand on n'a plus peur du noir.
Merci beaucoup, Sophie.
Voilà. Et vive Halloween.
Et vive Halloween, mais c'est quoi un truc américain? C'est quoi un commerce derrière?
Si vous voulez, en fait, Jean-Claude Servet.
Enfin, nous autres, on faisait les cocos sous-sous. On faisait les cocos sous-sous. Vous savez ce que c'est, ça?
Absolument pas.
Ah, ben ça, c'est... Mais c'était un moment, c'est donner des œufs, les enfants allaient frapper aux portes des maisons, c'est le même principe, et les gens donnaient des œufs pour faire l'omelette.
À la même période.
Oui. Ah, c'est pas la même période, non. C'est un moment pas que je ne sais plus exactement. Mais
oui, les œufs.
Ben oui, ben oui. Donc c'est... Ben je,
pourrait voir un peu dans...
Dans
mes livres. Là-dedans,
juste comme ça maintenant. Vous comptabilisez combien d'albums, justement, à l'heure actuelle?
Je ne sais pas. Ben, c'est plus de 55, hein, ouais. Ça c'est sûr. Alors, si on compte toutes les rééditions, toutes les variantes qu'il y a, 150, 200.
Un gros paquet.
Ben oui. Si on va avoir toutes les éditions, oui, c'est pour les mettre. Mais en nouveauté, je crois que ça passe de 55. Ouais. Et maintenant, comme on ressort encore mes péchés de jeunesse, on arrivera à 60.
D'ici oui, peu. Des choses à part comme Sylvaine, par exemple.
Ah c'est oui, mais ça, c'est des reprises.
Un peu à part.
Non. Ah oui, mais si on prend ça, j'ai fait des illustrations, Baptiste et le sanglier, pour le tabac de l'Asmois. Oui, mais si on compte tout ça, alors là, bon,
c'est ça.
Oui, mais c'était quelques illustrations dans un livre qui n'est pas à moi, hein, donc c'est différent, ça.
Oui.
On ne peut pas considérer ça comme un de mes albums. Mais j'y ai contribué.
Et puis chaque année, pas chaque année, mais régulièrement, vous sortez un almanach.
Oui, mais c'est fini, ça.
Et il y a eu des coupures, ça n'a pas, ça a moins...
Ben, ça se vendait moins. Et...
Ah oui.
Ben oui, maintenant, les gens sont plus sur leur tablette, leur truc...
Ça change tout ça,
ben
effectivement.
Oui.
Vous avez d'autres projets?
Oh, ben oui. Après le chat, j'ai déjà des projets. Je ne sais pas encore exactement de quand, mais c'est un peu tôt pour en parler. Mais je ferai une pause dans cette collection d'animaux pour faire quelque chose d'un peu plus personnel et intime autour de l'Asmois.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Jean-Claude Servet.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Sauf la falise, sauf
la falise
à moi. Merci Angelo, merci à Jean-Claude Servet qui nous a encore passionnés aujourd'hui.
On rappelle votre dernier album, La faune symbolique, tome 3, Le corbeau, la grenelle et la colombe aux éditions Dupuis.
Oui, c'est un album indépendant. On met tome 3, tome 2, tome 1. L'histoire du corbeau n'a rien à voir avec l'histoire du cerf précédemment, ni celui du renard.
C'est bien de le préciser.
C'est la collection, ça c'est les commerciaux, il faut qu'il y ait un truc sur leur bon de commande, hein, mais faut pas dire le tome 3, c'est le troisième album de la collection, c'est tout, mais pas, on le lit comme ça, il y a, en une fois, il n'y a aucun problème.
Il ne s'inscrit pas dans la continuité
non,
des autres,
non, non,
c'est
non,
tout
non.
À fait indépendant.
Ah oui, complètement, mais c'est le même esprit. Hein.
Oui.
Nous allons clôturer l'émission avec une chanson « Les yeux de ma mère », Arnaud.
Ah oui, c'est ce que je mets en fin de journée. Moi. Arnaud, ce morceau-là, c'est un des plus doux, des plus intimes qu'il a fait. Mais il en a des... Où les filles bord de mer d'Adamo, il a ressuscité Adamo, lui, donc c'est assez extraordinaire. Oui, je passe de pomme à...
Arnaud,
donc, mais Arnaud le matin ça passe pas, et pomme le soir ça ne réveille pas. Donc voilà.
Merci beaucoup de venir aller à l'émission Ni chaud ni froid pour aller au sud. Un dernier mot.
Une bonne soirée à tous et merci pour votre écoute.
Ben oui, continuez encore à nous régaler de très nombreuses années avec vos histoires.
Ben oui, j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter.
Radio Sud, la bonne attitude.
Quelque chose dangereux, quelque chose de l'allumeau, et quelque chose de l'emmerdeux. Elle est sûre qui tue, mais j'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessus de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour se trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. quand je suis dans la merde. Elle sait quand je suis con et faible, et quand je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis né. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours de la lumière. Quelque chose de l'allumeuse, et quelque chose de la merde. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours...